Voilà. Je vous invite à prendre la parole de Dieu, la Bible, dans Exode au chapitre 17, verset 5. Après ce message, c'est la même chose que je vais demander. Je demanderai à deux personnes de l'Assemblée d'être volontaires pour prendre la parole au moins 5 minutes, 6 minutes, sur le thème de cette parole que j'enseigne aujourd'hui. Comme on vient de faire aujourd'hui, suite à la prédication de dimanche passé, deux personnes ont pris la parole. Maintenant, dimanche prochain, suite à cette prédication, s'il y a deux personnes qui veulent bien prendre la parole, c'est extrêmement important que la parole sorte de nos cœurs. La parole de la foi. Pas la parole psychologique. Exode, chapitre 17. C'est le deuxième livre de la Bible. C'est le livre où le peuple juif, sorti d'Égypte, traverse le désert. Il fait de dures expériences. Et nous sommes à Réphidim. Bon, j'ai des cartes roulées et elles sont nulle part. Il faut que je les retrouve. Elles sont peut-être en haut, là au-dessus, il faudrait les exposer pour pouvoir étudier les cartes. Parfois, faire une retraite, moi j'aimerais bien aussi faire une retraite de presque une semaine avec tous les membres de l'église et d'inviter un ami pasteur. Une retraite où on prie et on jeûne, avec un ami pasteur que je connais. Et si possible, réfléchissez à ça, le prix à payer multiplie les grâces pour l'Église. Exode 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partie du désert de Sin. Donc, vous avez... J'ai du mal avec ce bras, j'arrive plus à le lever. Hein. J'ai peut-être un ligament déchiré. Mais vous avez le Sinaï en pointe. Le Sinaï. Entre l'Égypte, l'Arabie et Israël. Le Sinaï. Le départ des Hébreux se fait dans le coin du triangle au-dessus et ils descendent vers le Sinaï qui est dans le sud de la presqu'île du Sinaï et un peu avant, aux deux tiers de la distance, il y a Réphidim. Tout à l'heure, nous allons parler d'un autre texte où, à partir du Sinaï, ils repartent vers le nord. Et ils vont tout de suite, beaucoup plus haut, à Kadesh-Barnéa. Hein? Donc c'est du côté droit et plus haut, sur les cartes que vous avez à la fin de la Bible. Ça va? Et c'est chercher un peu à avoir les cartes en tête, mais je pense qu'on devrait avoir un local avec des cartes et des bases. Il faudra qu'on s'équipe, parce qu'il faut s'instruire dans la Bible, il n'y a rien à faire. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partie du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils vont me lapider. J'ai été opéré mercredi, excusez-moi, de deux hernies. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple. Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» c'est carrément une attaque en plein de face à Dieu. Hein. Moi, je pense que souvent, dans le peuple chrétien, on opère de telles attaques envers Dieu. Ce n'est pas que dans le passé. La question capitale dans ce texte est celle-ci. Dieu, l'Éternel, est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ? Vous avez vu le texte de le psaume 31 qu'a commenté magnifiquement notre ami Michael. Vous avez vu les deux témoignages. Vous voyez bien qu'une relation directe avec Dieu est la base. Avec le Dieu vivant, présent. Présent dans notre vie. C'est la base de la foi. C'est le centre de la foi. Alors, au verset 6, qu'a promis Dieu ? Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Horeb, Sinaï, hein ? Moïse fit ainsi, c'est un acte de foi. Il se tient devant le rocher. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi est-ce qu'il tient devant le rocher ? À cette époque-là, Moïse a une relation très forte avec le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Il a une relation très forte. C'est comme chez tout croyant, il y a des moments où la relation est très forte, très profonde et très vivante, et à d'autres moments, minable, désastreuse. Alors, et c'est la même personne qui a à la fois un terrain rempli d'épines, de buissons, ou qui a un chemin pierreux, ou à d'autres moments qui a un terrain fertile et prospère pour la bonne semence. Donc, c'est évident que Moïse, à ce moment-là, est dans une bonne relation, une bonne attitude de foi avec Dieu. Il se met devant le rocher. Les amis, pour comprendre ce qui se passe, il faut aller voir 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14. N'oubliez jamais que l'explication de l'Ancien Testament se fait à la lumière du Nouveau Testament. Tout passage de l'Ancien Testament trouve son vrai sens dans des versets qu'ont posés sur papier et qu'ils ont mis dans leur bouche, que les apôtres ont formulés et ont laissés dans le Nouveau Testament. Vous pouvez vous casser la tête en à comprendre l'Ancien Testament, si vous ne cherchez pas la lumière dans le Nouveau Testament, vous cassez la tête pour rien. Vous ne progresserez jamais dans la foi en lisant l'Ancien Testament. Pas plus qu'un juif ou un témoin de Jéhovah ou un musulman. Pour être dans la bonne lumière, pour lire l'Ancien Testament, il faut lire régulièrement dans les deux et c'est vous trouverez les versets, les explications par le Saint-Esprit et par le texte dans le Nouveau Testament sur l'Ancien. Ça, c'est la richesse de quelqu'un qui lit régulièrement sa Bible. Et puis, quand il ne s'en sort pas, qu'il vient trouver son pasteur pour apprendre. S'il ne veut pas apprendre, moi je le sens. S'il ne veut pas apprendre, je ne peux pas le forcer, moi. Hein ? Chapitre 10. Attendez, chapitre 10, frères, je ne veux pas que vous ignoriez, 1 Corinthiens, page 872, que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, donc la Shekinah qui était sur le peuple, hein, dans le désert, et la nuit qui brillait, la Shekinah c'est le Saint-Esprit, hein. Ils ont tous passé au travers de la mer rouge, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ok ? Si vous ne lisez pas ce verset-là, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on parle souvent du rocher dans l'Ancien Testament. Ça n'a pas de sens. Le rocher est rocher, pourquoi pas un petit caillou, une statue Ça devient de l'idolâtrie. Tiens, là, un rocher, je vais prier devant le rocher. Mais non, il n'y a pas d'idolâtrie. Parce que, en fait, Christ, conduisait et gardait le peuple hébreu. Et je ne sais pas si vous avez déjà été dans des régions très désertiques et tout ça, ou regardé des films, vous avez des cailloux, du sable partout, puis tout d'un coup vous trouvez un endroit avec des rochers, et si vous passez dans les gorges, vous trouvez des sources d'eau. Vous trouvez un abri pour la chaleur. C'est là qu'on se repose, parfois une journée ou deux. Hein? Et pratiquement, le rocher représente la force, la puissance, mais l'ombre, la protection. Et généralement, ben, l'arrivée de l'eau. Alors, donc à Rephidim, Dieu a répondu à la prière de son serviteur Moïse, parce qu'il s'est tenu devant Christ et il n'a pas écouté, son cœur n'est pas rempli d'amertume, il n'est pas découragé, il ne se laisse pas influencer par l'ambiance, par l'applaudimètre. L'applaudimètre. Parce qu'on est fort sensible à ça, hein? Non, merci. C'est pas la bonne tasse de café pour servir Dieu. Bon, maintenant, si Moïse a tenu tête à la contestation du peuple, c'est parce que le Christ tenait tête à la contestation du peuple. Christ tient compte de l'incrédulité de son peuple. Et bien sûr, il est offensé. Et pourtant, il bénit. Il bénit. C'est assez étonnant. Mais c'est un Dieu fidèle. Un Dieu qui est grand, qui a de la puissance, qui sait être patient avec les pécheurs, avec ceux qu'il a appelés. Bon, maintenant, nous allons aller dans Nombre chapitre 20. Donc, après Exode, vous avez un livre qui s'appelle Lévitique. Et puis, après Lévitique, vous avez Nombre. C'est aussi un... C'est tous des livres écrits par Moïse, hein, jusqu'au Deutéronome. 5 livres. Nombre, chapitre 20. Quand les femmes sont enceintes, là, à 8 mois et demi, elles mettent les mains pour tenir parce que la peau devient fine, elles ont du mal. C'est un peu comme ça. Pour moi, excusez-moi, je ne fais pas exprès, je prends aucun cachet pour la douleur. Hein. Non, merci avec tous ces trucs-là. Alors, ça marche, avec le Seigneur, ça marche. S'il vous plaît. Non, on ne va pas m'entendre. Hein. Nombre 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin, le premier mois. Le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Marie Myriam, la sœur de... Voilà. Bon, pratiquement, les amis, il faut savoir que nous ne sommes pas en même région. Nous sommes sur le versant du Sinaï, dans le premier texte, à gauche, du côté ouest. Maintenant, nous sommes dans l'autre versant, mais plus haut, on pourrait dire tout près de la Jordanie, dans le désert, Kadesh Barnea. Et là, ils vont tourner, parce que le roi de... Et tous les rois du coin sont contre eux. Hein. Ils viennent armés, hein, contre eux. Donc, c'est très difficile pour les Hébreux, cette période-là. Très difficile à vivre. Comme il y a des périodes très difficiles pour les chrétiens à vivre. Alors, nous allons voir qu'il va se passer quelque chose. Le même Moïse ne réagit pas de la même façon. C'est bizarre. Ça veut bien dire que nous aussi, on peut faire ça. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse, comme toujours. Hein? Quand ça va bien, on vous lance des fleurs. Quand ça va mal, ça barde. Hein? Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a pas de figuier, ni de vigne, ni de grenadier, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation, donc là où il y a l'arche d'alliance, là où Dieu se tient. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Ils sont dans le pétrin. Et il faut bien qu'ils s'approchent de Dieu pour avoir une réponse. Parce que toute la bande qui est là, ils sont nombreux, ça peut tourner très mal. Et ils sont coincés entre le marteau et l'enclume. Leur mission semble échouer, et pourtant, ils ont reçu une mission de Dieu, conduire ce peuple jusqu'à la terre promise. Vous savez que dans ce désert, où ils sont restés 43 ans, quand on lit le début du livre de Deutéronome, on voit qu'ils pouvaient faire le passage en 11 jours. 11 jours, ils l'ont fait en 43 ans. Tellement ces gens-là se sont compliqués l'âme et ne se sont pas approchés de Dieu. Pensez à vous, que je pense à moi, que vous pensiez à vous-même, combien de fois pendant des années on se complique la vie parce que réellement on ne cherche pas le Dieu vivant. On ne prend pas la bonne attitude et on complique tout à l'infini. Et on souffre. Et en plus, on s'écarte de Dieu, on s'oppose à lui et on s'oppose parfois, on critique ceux qui servent Dieu. Qu'ils soient bons ou mauvais. Ce n'est pas assuré, ça. Mais ils sont réduits à néant, ils se prosternent devant Dieu. Au chapitre 20, verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge, toujours ce bâton, qui avait servi à aller visiter Pharaon, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. De nouveau, le rocher. Pas le même que Réphidim, pas le même que Sinaï. Hein, c'est croire qu'il y a des rochers partout qui ont été posés comme ça. Hein? Mais c'est le Christ. Vous avez vu 1 Corinthiens 10, verset 14. Hein? Vous parlerez en leur présence au rocher. Il donnera ses eaux. Donc le Christ donnera l'eau. Il nourrira le peuple. C'est comme quand le Christ parle dans l'évangile de Jean à la Samaritaine, il dit, si tu me demandais de l'eau, je t'en donnerai, tu n'auras plus soif. Le même débat. Si tu prends toujours de l'eau de ce puits, tu auras toujours soif. C'est le même débat. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main, frappa deux fois le rocher avec sa verge, il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, ça vise Moïse et Aaron. Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donc ils ne vont pas rentrer en terre promise. Donc les responsables spirituels ont fait une faute grave. C'est qu'au moment où ils étaient devant le rocher, ils ne s'adressaient pas à Christ. Ils se sont adressés au peuple en disant, vous voulez vraiment qu'on vous fasse sortir de l'eau du rocher ou pas? Ils sont pris pour des médiateurs, comme des papes, ou je ne sais pas quoi, des gourous, qui ont la capacité de faire sortir l'eau. Et ils n'ont pas rendu honneur à Christ, ils n'ont pas rendu honneur à Dieu. Ils se donnaient un rôle important et artificiel. Vive le miracle! Beaucoup de gens cherchent des miracles. Et il y a des gens qui aiment bien de leur présenter des miracles. Parce qu'ils paraissent importants à leurs yeux. Mais ici, Moïse et Aaron ne devaient pas être importants, aux yeux du peuple. C'était le Christ, le rocher qui était l'important. Et ils l'ont mis de côté, ils se sont mis en avant. Regardez la grave offense faite à Christ que Moïse et Aaron font et que peut-être nous faisons souvent. Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ? Fin du verset 10. Nous vous ferons sortir de l'eau. Ça y est. Padre Pio en Italie, la Sainte Vierge à Lourdes, à Mezzogiorje, Saint Antoine de Padoue, Sainte-Claire, et tout le reste, hein ? Il y en a partout, dans le christianisme. Il n'y a aucun homme qui peut prendre une place importante devant Dieu. Il faut toujours laisser la place importante à Dieu. Et c'est lui qui nourrit le peuple. Tous ceux qui ont un ministère ne sont que des préposés, des serviteurs pour Dieu. Et ils n'ont pas à se mettre, à se rendre indispensables pour Dieu, à la place de Dieu. Seul Dieu est indispensable. Seul Dieu est central. Et ils ont offensé. Ils ont offensé la personne de Dieu. Et à cause de ça, tout le peuple là va rester dans le désert. C'est la génération d'après qui va y rentrer. Et ce peuple est tellement en désordre qu'ils ne vont même pas circoncire leurs enfants. Quand ? Pour passer en terre promise, il va falloir que la deuxième génération soit circoncise avant de passer le Jourdain. Ils n'ont rien fait de comme Dieu le voulait. Vous ne trouvez pas que dans notre christianisme, beaucoup de nos familles chrétiennes jettent leurs enfants dans le désert pour et ils n'atteindront pas la terre promise. Il y a beaucoup à dire sur tout ça. Regardons le psaume 106. Je ne suis pas là pour culpabiliser. Je dis simplement que la parole de Dieu est parfois sévère. Mais moi, je ne suis pas là pour culpabiliser. Comme Moïse l'a fait avec le peuple, il est culpabilisé. Et puis, tout compte fait, il s'est rendu important. De façon très maladroite, il s'est laissé emporter par la colère, laissé emporter par l'amertume. Et il n'a pas témoigné de la foi en Christ. Il devait se mettre devant le rocher, s'adresser à Christ, et puis c'est tout, se tirer, et que le peuple se rende compte que Dieu est là, que Dieu agit. Mais non, il s'est mis dans un état tel que l'Assemblée ne pouvait plus rien comprendre. Alors, psaume 106, versets 32 et 33. Bon, le psaume, il relate toute cette sortie d'Égypte, le passage dans le désert. Moi, je prends deux versets. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Meriba. Et Moïse fut puni à cause d'eux. Vous savez qu'il n'est pas rentré en terre promise. Ah oui, il est mort sur le mont Nebo. Et toute la première génération n'est pas rentrée non plus. Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit. Et il s'exprima légèrement des lèvres. Alors, le peuple était tellement, tellement hostile à Moïse et à Dieu, et découragé, bien sûr, et ayant vu peut-être tous les travers de Moïse, hein, il n'était pas toujours un petit saint tous les jours, mais pratiquement, qu'il est découragé, il ne se repose plus sur Dieu, et c'est ces ressentiments qui sortent. Aujourd'hui, les amis, vous devez essayer toujours de garder un contrôle de vous-même, une maîtrise de vos sentiments et de vos ressentiments. Ils sont pires que les sentiments, ceux-là. Il faut éviter l'amertume et l'aigreur. Pourquoi ? Parce qu'on offense Dieu, parce qu'on se met dans une situation de rupture avec Dieu. La foi, c'est une situation de paix avec Dieu, parce qu'on sait que Dieu est vivant, il est là, il regarde, il sait, il pourvoit. C'est quand même une grâce que Michael présente tous les psaumes un après l'autre, parce que la théologie des psaumes, elle est profonde. Et regardez, on y retombe dans les psaumes, au psaume 106. Vous vous rendez compte que cet homme-là, Moïse, qui est extrêmement important, qui parlait à Dieu face à face, comme un ami, une situation exceptionnelle. Et il finit à certains moments par se laisser gagner par l'ambiance et à ne plus se rendre compte que Dieu est là et il pète les plombs. Alors qu'il a une très grande expérience de la présence de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que si on est chrétien depuis 25, 30 ou 40 ans, c'est pas pour ça qu'on va pas se casser la pipe. C'est pas pour ça qu'on va faire toujours bien. On s'expose parfois, parce qu'on a pris le pilotage automatique de la foi, on s'expose, on a l'expérience de la foi et de Dieu, et bien on s'expose à s'écarter tout d'un coup. Et il y a le vide sous les pieds. Et une expression de cet écart avec Dieu, c'est le cœur aigri. Et c'est les paroles qui parlent, c'est les lèvres qui parlent légèrement. Voilà. Vous avez un texte extrêmement important. Moi, ça m'a secoué quand je suis tombé il y a plusieurs années sur ce texte. Mais quand j'ai vu les deux positions là, dans le désert, à Réphidim et à Meriba, c'est le même Moïse. Et il s'égare. Et il amène des sanctions terribles sur sa propre vie et celle du peuple. Est-ce qu'on n'amènerait pas des manques de bénédictions sur nos églises, sur nos familles, parce qu'on fait la même chose? Est-ce qu'on ne priverait pas nos familles et notre église de bénédictions divines parce qu'on a des attitudes comme ça? C'est ça, moi, la question. On ne fait pas que de l'histoire en lisant la Bible de l'Ancien Testament. Alors, regardons dans Matthieu 18. Si je vous parle de tout ça et que je prends les textes, c'est parce que, bon, moi-même, je suis au seuil de tout ça. C'est pas mieux que n'importe qui, hein. Je suis au seuil de tout ça, et des fois, paf, 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 tac, 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 hein. Alors, Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore, c'est Jésus qui parle à ses disciples, à ses apôtres, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Une chose quelconque, accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc on a l'impression qu'il n'est pas là. Pourtant il est là. Parce que les cieux, ce n'est pas des kilomètres. Les cieux, c'est la gloire de Dieu, qu'on ne peut pas voir à cause de notre péché. Mais les cieux sont ici, partout. Les anges, Dieu, en sa gloire, il est partout. C'est parce que c'est notre péché. Ésaïe 59, verset 1 à 3, notre péché qui cache la face de Dieu. C'est pas Dieu qui se cache. C'est pas Dieu qui est loin de nous. C'est notre nature qui se met loin de Dieu. Et dont il faut se méfier comme de la peste. Alors, accordé par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. J'étais avec ma famille en visite chez les chrétiens de l'église il y a plusieurs années en Hollande. Et puis on revient et la bretelle où je devais passer était fermée. Boum, il y avait des travaux. Oui, mais Rotterdam, c'est immense. Moi, je suis pas gombri là. Namur, Bruxelles, je connais, Paris, je connais, mais Rotterdam, avec les ponts, les tunnels en dessous des bras de mer et tout le bazar. Alors, pratiquement, ce qui se passe, toute la petite famille, les enfants sont là, derrière, et il va falloir être là à l'heure, pipi, caca et tout le reste, hein, parce qu'à un moment donné, ça... Et on avance, je me retrouve pas loin de la mer. Je reviens. J'étais dans le... Je ne vais jamais retrouver Woodstrat, hein, la rue des petits pieds. Hein, et je ne vais jamais retrouver Elien Nico. C'était énorme, cette ville. Hein, ça devenait fou. Je devenais fou. Et je commençais à conduire en pleurant. parce que j'avais toute la l'asthma là derrière, qui les pipis et faim et tout le reste. Bon, mais c'est peut-être, je suis peut-être pas Moïse, on n'est peut-être pas Réphidim ou Kadesh Meriba, mais c'est à peu près, si vous donnez un exemple. Hein? Mais une ressemblance. Et qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui se passe, hein? Eh bien, à un moment donné, ma femme dit, mais il faut prier, Jeannot, il faut prier. Moi, je n'avais pas envie de prier. Bon, elle prie. Bon, je la ferme. J'accepte. De toute façon, je n'avais plus rien à espérer par mes propres forces. J'y arrivais plus. Alors, tout d'un coup, derrière, il y a un gars avec les phares. Qui est double, un costaud, hein.
C'était pas tout à fait.
Jean-Christophe qui revenait d'un chantier, un docker, hein. Et, allez, comme ça, on s'arrête le long de l'autoroute contre la barrière, hein. Il sort, alors il dit en flamand, et toi le petit belge, tu es perdu? En néerlandais, mais je comprends le néerlandais, hein. Je dis oui. Allez, amène-moi ton plan, qu'il me dit, la carte. Il tourne le plan, où est-ce que tu vas? Voutjestrat. Bon, ça va, on replie ça. C'est là que j'habite. Suis-moi. Le gars venait de travailler 10-12 heures dans les bateaux, à décharger les bateaux et les recharger, un docker, hein, il ne s'amuse pas. Hein. Et pratiquement, pourquoi il s'arrête avec le petit belge? Alors, t'es paumé le petit belge? Il me dit tout ça en flamand, j'ai joué. Alors, j'étais anéanti. Et qu'est-ce qui s'est passé? La prière dans l'auto, à la seconde même, exaucée. Le gars, on est arrivé dans la petite rue, Woutjestraat, et il habitait 20 mètres plus loin, nous on s'est arrêté, on était rentré. Combien de fois dans ma vie, avec ma tête de nœud, alors que j'ai la foi, je n'ai pas remis la situation à Dieu? Avec ma tête de nœud. Donc on a une tête de nœud pour toute la vie. Mais l'amour de Dieu, si on a cru en Dieu, l'amour de Dieu est fidèle, il est grand. Et l'expérience de la foi, c'est quoi? L'humiliation. L'humiliation répétée pour perdre cet orgueil venu d'Adam et Ève. Une humiliation, ça veut dire... C'est le mot humus en latin, les feuilles qui pourrissent dans la forêt, quand elles pourrissent, elles font revivre les arbres. L'humus fait revivre. Ce qui meurt en moi, par l'œuvre de Dieu, me fait revivre. Tout ce que je perds par l'humiliation est source de vie en moi. Parce que Dieu le reprend pour me donner vie. La chair ne sert de rien. Seul l'Esprit Saint vivifie. Jean chapitre 6, verset 65. La chair ne sert de rien. Et voilà l'histoire que la Bible veut nous enseigner tous les jours. Alors, 1 Timothée chapitre 3, verset 3. Timothée, chapitre 3, verset 3. Et puis moi, j'ai la mettre sur ma chaise longue. Que Jackie a bien apporté avec son copain. Hein. Oh là là, quel miracle. La chaise électrique. Il a amené une chaise électrique. Les pieds en l'air, la tête comme ça. Oh là 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 là, quelle délivrance. 1 Timothée, chapitre 3, verset 3. Il faut, à propos de l'ancien, à propos du responsable, qu'il ne soit ni adonné au vin, ça veut dire, à propos de l'ancien dans la Bible, l'ancien, pas le diacre, parce que les mots grecs sont différents. Pour l'ancien, il ne faut pas la bouteille de vin au milieu de la table. Parce qu'à force de l'avoir au milieu de la table, on oublie Dieu. Oui, on va encore en prendre un petit coup, là, vous en voulez. Et puis, pour finir, hein, ben, le Seigneur est oublié. L'ancien, c'est l'ancien, mais ce n'est pas dire qu'il est plus malin que les autres, le responsable. Alors, Il doit s'écarter de ce qui peut le tenter. Donc, qu'il ne soit pas adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Donc il devait être indulgent, c'est-à-dire qu'il supporte la souffrance des autres, qu'il supporte la faiblesse des autres et le manque de foi des autres. Il a cette capacité de supporter. Et qu'est-ce qui a fait que Moïse a eu un cœur aigri et des paroles amères sur son peuple? Il n'a plus supporté le peuple que Dieu lui avait confié.
40 ans, hein. Pas une heure dans un périphérique.
Oui, c'est bien. Oui, mais n'empêche...
Il connaissait Dieu, c'est vrai.
Si un conseil d'anciens dans l'église, l'année prochaine, et que régulièrement, ils ne sont pas indulgents, ils ne sont pas patients, ils sont aigres, amers, que le vinaigre, pour conserver les cornichons, le vinaigre qu'ils ont mis, il est trop fort. Vous comprenez que leur foi n'est pas adaptée à l'église, aux membres qui sont là. Ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas l'indulgence qu'il faut. Ben ça va donner quoi? Ben c'est un grand bazar, quoi. On n'arrivera nulle part.
Des pharisiens.
Oui, alors, vous voyez bien que l'ancien doit être indulgent. Il doit être capable de supporter les faiblesses et les manquements des autres. Sans tomber dans la colère et l'amertume. Mais vous voyez ça dans Hébreu. Il nous convenait d'avoir un grand prêtre capable de compatir à toutes nos faiblesses, qui a souffert de la même façon que nous. C'est Jésus. Il est indulgent, il est plein de compassion. C'est en cela qu'on peut se confier à Jésus, en toute chose. Parce que lui, s'il vous appelle, c'est parce qu'il sait qu'il va être fidèle dans son ministère avec vous. Il sait très bien que vous ou moi, on ne va pas y être. Les belles promesses au baptême, les belles promesses de ci et ça. Oui, mais il va falloir être humilié pour y revenir. Il va falloir renaître chaque fois, recommencer. Mais lui pas. Il n'a pas le péché, lui. Il est saint. Et il nous aime. Alors, 2 Timothée, chapitre 2. La richesse, je vais avoir fini. Oui, oui. Je vais avoir fini, parce que je suis prêt à accoucher de toute façon. Alors, je dis ça, c'est parce que les qualités d'une église, il faut les trouver dans la Bible. Il faut les trouver dans la Bible. Les qualités d'une église, pour progresser, il faut les trouver dans la Bible. 2 Timothée, chapitre 2, verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Vous voyez à quel point Paul, qui pourtant devait avoir un sacré caractère, hein, ça devait être un sacré bonhomme. Je supporte tout à cause des élus. À quel point Dieu l'a brisé, à quel point Dieu l'a transformé pour qu'il puisse dire ça. Vous voyez? Alors, il faut lire un peu plus loin, vous allez voir. C'est afin qu'ils obtiennent le salut en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Vous vous rendez compte que celui qui sert Dieu, il doit avoir comme objectif que tous ceux qui sont là avec lui et lui-même héritent de la gloire éternelle. Du meilleur, du plus beau. C'est que ça qui le concerne. C'est que ça. Il est prêt à tout donner pour ça. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Alors, si nous sommes morts avec lui, c'est-à-dire que la vieille nature qui se repose sur des sentiments et des ressentiments n'est plus là. Le problème de Moïse, c'est que sa vieille nature est revenue. Et il a pété les plombs à Kadesh Barnéa. Moi, je ne m'en veux pas. J'aurais peut-être déjà fait des années avant. Mais ce qu'il y a ici, chez les chrétiens, notre nature, il faut la confier à Christ. Quand Christ est sur la croix, au Golgotha, qu'il a les clous dans les mains et les pieds, il a pris mon péché, il a pris ma nature. Mon péché est crucifié. Seigneur, je sais que mon péché a été crucifié. Il est mort à la croix. Je ne veux pas qu'il règne en moi. Je ne veux plus qu'il reprenne la maîtrise de ma vie. Je veux t'appartenir, Seigneur. Je suis mort à moi-même, je suis vivant en toi. Vivant dans ton Saint-Esprit. Vivant par ta compassion, ton indulgence, par ta proximité, par ta présence. Je peux t'adresser tous mes fardeaux. Tu vas m'entendre, tu vas m'écouter, tu vas me relever. Je vais peut-être chanceler, tituber sous la douleur, sous la peur, sous l'offense, mais je ne tomberai pas parce que tu me tiens la main. Alors que le méchant, il s'écroule. Voilà, c'est très important tout ça. Vous vous rendez compte que l'admiration qu'on peut avoir et l'estime de Christ qu'on doit avoir est la clé de nos vies, de nos âmes, jour et nuit. Hein. Je vais vous donner un exemple. Ça fait 3 semaines, 1 mois que j'ai mal à l'épaule, mais quand je vois Jackie depuis des années, les genoux et tout le bazar, c'est pas la fête. Hein. Alors, et puis j'en ai vu des autres. Alors, pratiquement, ce qui s'est passé, c'est que je suis dans ma chaise là, électrique, je suis bien, oui, ça va, ça ne tire pas trop, je suis bien, j'ai mis la couverture, j'ai mis l'oreiller, je vais me reposer. Pour l'épaule. L'épaule n'a rien à voir avec l'opération des derniers, mais c'est l'épaule qui m'embête. Vous vous rendez compte? Alors, vous êtes là-dedans, dans ce fauteuil formidable, une chaise à côté, 2 oreillers pour mettre le bras, hein? Parce qu'à un moment donné, j'en ai tellement marre, je prends le bras et je le mets comme ça au-dessus de ma tête, je n'arrive pas à le lever autrement. Et puis je le repose, hein? Je le laisse tomber comme une flatte, ça va. Mais ce qu'il y a, à un moment donné, ça l'épaule va. Saloperie va. Excusez-moi, je l'ai pensé, je l'ai dit. À mon épaule. Et puis je me suis dit, mais Seigneur, pardon Seigneur. Pendant la nuit, pardon Seigneur. Mais cette épaule-là, ce bras-là m'a rendu service des années. Il a rendu des fidèles services. C'est celui-là qui a travaillé le plus. Je suis en train de l'insulter. Pardon Seigneur. Je te dis merci pour mon bras. Je te rends grâce pour mon bras. Je sais encore serrer une main. Je sais encore refaire ça. Hein, je sais me mettre dans l'oreille. Je ne sais plus lever le bras. Mais Seigneur, si tu veux, quand tu veux, je pourrai le relever. Si je ne pouvais plus le relever, ben je demanderai de l'aide aux autres. L'humiliation, c'est ça. Mais merci pour mon bras, Seigneur. Donc je ne m'arrête pas à ce qui ne va pas. Je m'arrête à ce que Dieu a donné. Je regarde à ce que Dieu a fait. Alors, l'amertume, c'est de regarder ce qui ne va pas, ou ce qui n'est plus. Et la joie de la foi, c'est de rendre grâce. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Rendez grâce en toutes circonstances ». Rendez grâce en toutes circonstances, parce que c'est la force. C'est la force de la foi. La force de la foi, c'est l'action de grâce, c'est la joie en Christ. Et vous savez que Satan a donné un message dans les années 29 à 45 en Allemagne, un message spirituel tout à fait calqué là-dessus. Toutes les Hitlerjungen, les camps dans les forêts et tout ça, les manœuvres pour les jeunes, la jeunesse pour former les soldats, c'était la devise, c'était la force par la joie. Hitler avait fait ça. Vous vous rendez compte? C'est véritablement une souillure de Satan, une souillure spirituelle du monde. Et regardez bien aujourd'hui ce qui se passe avec les masses médias, la musique et tout le reste. La force par la joie. La force par la joie. Et nous, c'est la force par l'action de grâce. La joie en Christ. La joie d'avoir d'être, se reposer sur Christ. Mais regardez, il n'y a presque pas d'écart dans les mots, dans la pensée. Le vice de Satan, c'est de presque faire une photocopie des paroles de Dieu et des attitudes spirituelles, les vices de Satan. Méfiez-vous-en. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole à Bénédicte. Et puis je demanderai, pour terminer le culte, à Jackie de prier.